Vous me dégoûtez avec vos milliards de dollars. Et la Banque mondiale cautionne ce genre d'économie barbare. Deux sociétés françaises qui contrôlent 70% de l'eau potable, appuyée par l'OMC et les milliers de sous-tables. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis sur S Vivendi. Ils ont privatisé ce qu'on avait de plus cher. L'eau potable est un luxe. Nique sa mère, nique sa mère. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis sur S Vivendi. Ils ont privatisé ce qu'on avait de plus cher. L'eau potable est un luxe. Nique sa mère, nique sa mère. Tu comprends de l'eau douce, il y en a que 3% sur la planète. En 30 ans, l'eau disponible a baissé sur ma planète. En plus, la qualité de l'eau est de plus en plus secrète. Le nitrate, les pesticides niquent de plus en plus la planète. Et ce n'est pas une fatalité, je te parlerai des PCB dans un autre texte quand tu seras prêt, quand tu seras moins que teubé. L'Africain court de partout pour à peine par jour 30 litres, pendant que l'Américain chaque jour utilise 700 litres. Et encore un Africain sur deux souffre d'une maladie liée à l'eau. J'ai le flow qui rend tous ceux qui ne croient qu'en l'UNESCO. On privatise à tour de bras, on nous enlève notre peau. On augmente nos factures et les pauvres n'ont plus qu'une goutte d'eau. Mais à force d'anéantir le globe pour vos euros, vos enfants grandiront avec les mêmes problèmes du ghetto. Demain Soto au FMI, de la Banque mondiale à ses amis, j'écrirai la vérité sur votre tyrannie. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis sur S Vivendi. Ils ont privatisé ce qu'on avait de plus cher. L'eau potable est un luxe. Nique sa mère, nique sa mère. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis sur S Vivendi. Ils ont privatisé ce qu'on avait de plus cher. L'eau potable est un luxe. Nique sa mère, nique sa mère. Faisons comme en Bolivie, virons les multinationales. Plus d'or bleu pour les multinationales. Suez s'est retiré de Aguas de Santa Fe. Heureusement que l'Amérique latine n'a jamais rien lâché. Israël contrôle 80% de l'eau palestinienne. Demande à Mekoro pourquoi il joue les gros chiennes. Demande aussi aux femmes du Kerala ce qu'elles pensent de Coca-Cola. La lutte du siècle a déjà commencé là. Sur toute la ligne, ils nous baissent, ils nous rebaissent, nous surbaissent. Et nous on consomme du Nestlé, du Danone, du Suez, Evian et Vitel. Arrêtez le plastique avec la canne à sucre. On fait les mêmes bouteilles écologiques. Mais ça, ça n'enrichit pas les dealers de pétrole. Tu parles d'eau pure dans tes pubs, mais tu niques le globe. Bientôt, plus de verres d'eau gratuits au resto. Comme en Mésopotamie, le retour de la guerre de l'eau. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé.
6h à Paris, 4h en temps universel. Une nouvelle demi-heure d'actualité sur RFI. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Arthur Ponchelet.
À la une, l'Europe confrontée aux incendies, à la sécheresse et à la canicule.
Et le réchauffement climatique en est un facteur aggravant, alors que de tristes records continuent d'être battus. L'escalade au Moyen-Orient, une 12e nuit de frappe en Iran et dans le Golfe. Un conflit qui s'étend peu à peu dans la région. On sera aussi à Amdafok dans ce journal, ville du nord de la Centrafrique, encore meurtrie par l'attaque d'un groupe rebelle le mois dernier. La population, encore sous le choc, craint une nouvelle offensive. Et puis l'ancien président vénézuélien sera jugé le 1er juin 2027. Nicolas Maduro, enlevé par l'armée américaine en janvier avec sa femme, comparaîtra pour 4 chefs d'accusation, dont narcoterrorisme. Une saison des feux particulièrement intense dans l'hémisphère nord, avec de violents incendies au Canada et dans le sud de l'Europe. On va y revenir. Cette intensité, l'intensité de ces épisodes est liée à la sécheresse qui, elle-même, est liée au réchauffement climatique. C'est la conclusion, Jeanne Richard, d'une étude de scientifiques du World Weather Attribution.
L'été est loin d'être terminé et les vagues de chaleur s'enchaînent. L'eau du sol, des rivières et des lacs s'évapore. Signe du changement climatique, explique Mariam Zakaria de l'Imperial College de Londres.
La principale cause de cette sécheresse n'est pas le manque de pluie, mais le réchauffement de l'atmosphère qui a engendré une augmentation de l'évaporation, ce qui s'est traduit par un assèchement des sols. Le changement climatique a rendu cette sécheresse environ 5 fois plus probable dans l'ouest de l'Europe et environ 11 fois plus probable dans l'est de l'Europe.
Et les conséquences se font déjà ressentir, Merel Loven, chercheuse aux Pays-Bas.
L'activité des feux de forêt s'intensifie rapidement, surtout en Espagne et en France. Le faible niveau des rivières menace la production hydroélectrique et le transport fluvial des marchandises. Et partout en Europe, des villes instaurent des restrictions d'eau. D'importantes pertes agricoles risquent d'augmenter les prix de l'alimentation et aggraver les inégalités sociales. Il est maintenant essentiel que les États européens anticipe les sécheresses et ne soit plus dans la simple gestion de crise.
Selon une étude, la chaleur de juin devrait coûter 2 milliards d'euros aux producteurs européens de céréales et entraîner une baisse de la production de 10 millions de tonnes par rapport à ce qui était prévu.
Et on évoquait donc ces feux dans l'hémisphère nord. En Espagne, ce départ de feu près de Tolède, les pompiers se battent toujours depuis une semaine maintenant contre un autre incendie à 100 km au nord de Madrid et qui a ravagé plus de 32 000 hectares dans le sud de l'Italie. Un pompier est mort hier en combattant les flammes. La France, elle, subit deux incendies dans pleure, l'un dans le Var, dans le sud-est, l'autre en Gironde, dans le sud-ouest, où 12 000 personnes ont été évacuées au total. Plus de 45 000 hectares sont partis en fumée cette année dans le pays. C'est déjà plus que sur toute l'année 2025. Et il n'y a pas que le sud de l'Europe qui est confronté. Au Canada, près de 900 feux sont actifs, dont 735 non maîtrisés. Rien n'est plus important que l'avenir de la jeunesse. Les mots de Narendra Modi, il y a quelques minutes. C'est la première fois que le Premier ministre indien prend la parole sur le mouvement étudiant démarré en mai. Ce mouvement, appelé ironiquement Parti des cafards, réclame des réformes universitaires après un scandale de fraude. Narendra Modi promet ce matin de punir les responsables de ces fraudes alors que la protestation prend de l'ampleur. On est en direct de New Delhi dans une heure. Pas d'accalmie au Moyen-Orient. L'armée américaine a lancé cette nuit de nouvelles frappes contre des cibles militaires en Iran. Hier, le président américain Donald Trump a menacé de détruire une centrale électrique ou un pont à chaque fois que Téhéran ciblerait un navire dans le détroit d'Ormuz. L'Iran menace d'une riposte puissante en cas de frappe sur ses infrastructures civiles. Dans le Golfe, le Koweït ce matin dit avoir été à nouveau la cible de drones iraniens. Les conséquences de cette guerre entre les États-Unis et l'Iran se font ressentir dans tout le Moyen-Orient, notamment en Irak. Conséquences sécuritaires, économiques, mais aussi psychologiques. Reportage de Marie-Charlotte Roupi à Erbil, capitale du Kurdistan irakien.
Le quartier 108 d'Enkawa, près de l'aéroport d'Erbil, est paisible le jour. Mais le soir, il est régulièrement secoué par l'interception de drones par les défenses antiaériennes de la base américaine à proximité. Noura, une habitante du quartier.
Du coup, une explosion se produit et on est terrifiés. Parfois, les vitrines se brisent. C'est comme ça depuis le 28 février. Les gens commencent à s'y habituer, mais à chaque fois qu'on pense que la situation s'améliore et redevient stable, ça recommence.
Les frappes répétées contre les bases des groupes armés d'opposition iraniens éparpillés au Kurdistan inquiètent aussi les habitants. Feraidon est installé dans un minibus pour rentrer chez lui à Soleimani.
Nous sommes dans une situation de stress quand on dort, quand on mange ou quand on voyage. Nous avons peur que des missiles tombent sur une voiture de civils.
Cache-toi.
Au sud, les combats dans le détroit d'Ormuz limitent gravement les exportations de pétrole qui représentent plus de 90% des revenus publics irakiens, mais aussi les importations. Au bazar d'Erbil, les vêtements de Mahmoud arrivent d'Asie via le détroit d'Ormuz.
Avant la guerre, on vendait les produits 10 dollars. Maintenant, on les fait venir pour 20 dollars, donc on fait monter le prix pour les clients.
La hausse des prix du carburant et du gaz, ainsi que les coupures d'électricité provoquées par l'arrêt du principal champ gazier de la région par mesure de précaution, complique encore le quotidien des habitants. Marie-Charlotte Roupi, Erbil, RFI.
Et ce conflit continue de s'étendre puisqu'au Yémen, les rebelles Houthis, soutiens de Téhéran, ont annoncé en début de semaine un blocus maritime contre l'Arabie Saoudite voisine. Une dizaine de navires a fait demi-tour près du détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge après avoir reçu des messages radio venant des rebelles. Ces derniers ont d'ailleurs revendiqué l'attaque de deux pétroliers saoudiens. Riyad confirme ce matin qu'un navire a été touché en mer Rouge. Toute la situation dans la région est à suivre minute par minute dans un direct sur notre site internet. En Centrafrique, les armes se sont tues il y a près d'un mois à Amdafok. Cette ville du nord-est à la frontière avec le Soudan a subi une attaque des rebelles de l'ASP, l'Alliance du sursaut patriotique. Depuis, l'armée avec ses alliés russes contrôle la ville. Et si la vie reprend progressivement, la population reste sous le choc et craint une nouvelle offensive. Pour rassurer les habitants, l'armée a renforcé son dispositif sécuritaire. Reportage sur place reportage de Rolf Steve Domialuche.
Une pluie légère tombe sur Amdafok. Un groupe de cultivateurs se dirige vers les champs avec des ânes et des chevaux attelés à des charrettes. Le chemin qu'ils empruntent passe à 500 mètres de la frontière avec le Soudan, d'où sont venus les rebelles de l'ASP il y a 3 semaines. Abel, l'un des cultivateurs, explique la difficile cohabitation le long de cette frontière.
Vous voyez ces arbres alignés ? C'est la limite entre les deux pays. Côté soudanais, vous pouvez voir un important dispositif armé qui surveille la frontière. C'est difficile pour nous de traverser là-bas. Mais avant cette crise, les soudanais et même les rebelles faisaient des allers-retours ici sans être inquiétés.
Même si aujourd'hui la frontière entre les deux pays est fermée, les habitants redoutent une menace grandissante.
Les limites de la frontière ne sont pas vraiment respectées. Ces dernières années, les différentes crises ont fait en sorte que les rebelles déplacent les bornes. Si nous n'y prenons pas garde, ils finiront par occuper une grande partie de notre territoire. Amdafok est sous menace.
Avec la guerre qui se poursuit au Soudan, la situation demeure confuse et particulièrement sensible le long de la frontière. Gervaise, une habitante d'Amdafok, se dit très inquiète.
Nous avons entendu dire que la plupart des rebelles chassés d'ici se sont retranchés de l'autre côté de la frontière, ainsi que dans la brousse. Nous avons appris qu'ils sont en train de se réarmer pour venir attaquer la ville.
Le gouvernement centrafricain affirme avoir renforcé son dispositif militaire dans la région afin de prévenir toute incursion des groupes armés venant du Soudan. Rolf Steve Domialu, de retour d'Amdafok, RFI.
En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a franchi la barre des 1000 morts. Sur près de 2500 cas confirmés, le taux de mortalité dépasse les 40% et la majorité des cas restent concentrés en Ituri, dans l'Est. RFI, 7h09 à Kiev, 4h09 en temps universel. Dans l'actualité également, les efforts diplomatiques du président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu hier avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Les négociations avec la Russie sont au point mort depuis le début de la guerre entre Washington et Téhéran. La paix est nécessaire, une paix dans la dignité. L'Ukraine y est prête depuis longtemps, a dit hier Volodymyr Zelensky. En attendant, l'Union européenne devrait bientôt adopter un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, le 21e. Mais dans le même temps, un projet fait polémique en Allemagne. Berlin a donné son feu vert pour permettre à Framatome, groupe français, de travailler avec le russe Rosatom pour fabriquer des combustibles nucléaires de type russe sur le sol allemand. Donc, précision à Berlin de Pascal Thibault.
Ça n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe. Le ministre écologiste de l'environnement de la région de Basse-Saxe a dû autoriser la production de combustibles nucléaires dans l'usine de Lingen, mais Christian Mayer n'a pas manqué d'exprimer tout le mal qu'il pensait du projet. Le ministère fédéral de l'environnement, lui, avait estimé que l'absence de sanctions européennes contre la Russie dans le secteur nucléaire ne permettait pas une interdiction de cette coopération franco-russe. Les défenseurs de l'environnement, les Verts, mais aussi des chrétiens démocrates dénoncent le projet. Le député de CDU qui dirige la commission parlementaire contrôlant les services secrets, Mark Heinrichmann, estime que la Russie veut conserver le contrôle des points centraux de nos infrastructures critiques. Les employés de la filiale du groupe Rosatom ne pourront entrer sur le site de Lingen que dans des cas exceptionnels et limités. Les équipements et les logiciels russes seront passés au crible. Le député de CDU Heinrichmann a appelé Framatome à renoncer à son partenariat russe et souligne qu'une solution alternative existe, les États-Unis fournissant l'Ukraine avec des barres de combustible nucléaire similaires. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Au Venezuela, le bilan du double séisme continue de grimper. Un mois après la catastrophe, il approche des 5400 morts. De nombreuses personnes continuent de lutter pour retrouver les corps de leurs proches. Les autorités n'ont pas donné d'estimation du nombre de disparus, mais selon l'ONU, il pourrait atteindre les 50 000. Encore meurtri donc par ce double séisme, les Vénézuéliens s'intéressent peu au sort du président Nicolas Maduro, enlevé avec sa femme Cilia Flores à Caracas le 1er janvier par l'armée américaine. Le couple sera jugé à partir du 1er juin 2027, notamment pour narcoterrorisme. La date a été fixée hier, après une audience à New York. Mais à Caracas, donc, Alice Campagnol, ce procès à venir intéresse peu.
Les Vénézuéliens attendront l'an prochain pour suivre le procès de leur ancien président, Nicolas Maduro. Mais dans la rue, cette nouvelle a fait très peu parler. Ils sont nombreux à n'être tout simplement pas au courant, comme Carlos, un jeune homme d'une vingtaine d'années.
Ah non, mira, la verdad, no sé.
Ah bon ?
Je ne savais pas. Je ne regarde pas vraiment les infos, à part ce qui se passe à La Guaira. Et en plus, je dois m'occuper de mon appartement où des murs sont tombés. Donc bon, je n'accorde pas trop d'importance aux informations internationales.
Les conséquences du séisme au Venezuela laissent peu de place dans l'esprit des citoyens pour le déroulé des audiences de leur président à plus de 3000 km de là. Et pour Carlos, son sort importe peu.
Je pense qu'il est très bien là où il est. Et j'espère que les choses resteront comme ça. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de mal à la population. En vérité, j'aimerais qu'ils soient plus nombreux derrière les barreaux.
Peu à peu, l'image et le souvenir de Nicolas Maduro disparaissent dans le pays. Dans les discours des autorités, par exemple, son nom n'est plus mentionné, alors que dans les semaines qui ont suivi son arrestation, tous réclamaient sa libération. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
RFI 6h12 à Paris. On poursuit notre tour du monde de l'actualité avec nos chroniques.
RFI, toute l'actualité,
Marion Cazanov.
On partira d'abord au Sénégal, à 100 jours des Jeux Olympiques de la Jeunesse, premier événement olympique sur le continent africain, et tout est prêt à Dakar, à quelques détails près. À suivre le quatrième épisode de notre série sur les temps forts des dernières présidentielles françaises. Aujourd'hui, retour sur l'élection d'Emmanuel Macron, c'était en 2017. Un peu de jazz et de soul avec notre invitée culture, la Sud-Africaine Lorraine Klassen. À 70 ans, elle repart en tournée. Elle était à l'affiche du festival Nuit d'Afrique, ce mois-ci à Montréal. On fera une petite histoire de la cardiologie dans le Conseil Santé avant de découvrir le choix de nos programmateurs. Et puis, ce sera le retour de l'actualité africaine. La flamme olympique va repartir en voyage. Dans 100 jours, le Sénégal accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar. Ce sera le premier événement olympique organisé sur le continent africain. 2 semaines de compétition, 2700 athlètes de 17 ans maximum sur des infrastructures flambant neuves. La ville est prête, il y a juste encore quelques réglages à faire. Reportage à Dakar de Babacar Fall.
Le complexe sportif Ibn Mardouk de Dakar, avec son stade et sa mini arena, sa reconfiguration pour les JOJ est terminée, ou presque.
Je sais que le public s'inquiète beaucoup pour les infrastructures. Ce que je peux leur dire, c'est que on a déjà fixé la date.
Il s'appelle Abdoulaye Tanouté, le monsieur communication des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
D'avancement, mais ce que je peux annoncer aujourd'hui, c'est que l'inauguration se fera la semaine prochaine par les plus hautes autorités.
Ah, pardon.
Au siège du COJOJ, le comité d'organisation des JOJ, le compte à rebours commence. Nous sommes à J-100 des Jeux. En présence de la représentante du CIO, Papma Guedfal, le chargé du branding, met une dernière touche sur ces affiches. Vous êtes en train de regarder faire les derniers réglages.
Oui, on est en train de travailler sur les derniers points en fait, concernant le look des Jeux. La semaine passée, on a fait avec la ville de Dakar une mise à disposition en fait, de ce qui va être mis en fait, dans la ville côté look. C'est un look qui représente cette jeunesse africaine, un look vraiment vibrant.
Et le village des Jeux, il est installé à l'université Amadou Maktarmo de Gamiadio. Les 2700 athlètes de ces JOJ seront logés sur le site.
Remember to be grateful for this moment in this body at this time. It's a power of now. Remember to breathe through it. Each and every day I do it. It's all available. Challenges to overcome and the lessons you learned along the way on this journey. Yeah, you are not alone. Just look back at how far you've come. You're right on time. You will do well to remember. Remember that. Rest in it. Breathe it in. Allow this knowledge to fill your being. You're so powerful. So brilliant, never doubt your
be a beacon. Well, faith is my foundation. I said failure, oh, it was not an option. If I can do it, anyone can. To all such a being suffering, it was faith that gave me strength to keep on. It was faith that urged me on. You're not alone. No, 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 no.
musique a une importance capitale. Une chanson plaît surtout en fonction de sa musique.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9.
Par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas ? C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art.
Principe Actif, le mix des cultures.
Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de Bamako. J'étais dans la
comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali d'émerveille, le mali Dieu crée à la flamme. Le mal y danse dans mon âme.
On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Le capitaine, tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Ma tête saute, là je voudrais m'asseoir, rêver de la veille. A défaut de pas trouver ma voix, j'élève la mienne. Les gens m'ennuient, je les sens tranquilles, moi je reste anxieux, je crois que c'est tant mieux. Je déteste le monde, c'est clair, je sombre et vers le fond, je vois les envieux, ouais. Et rien n'est infini, dans le métro je reste invisible. Quand la tête m'oppresse, je pense à mes problèmes, je me contredis si je dis que la vie fait le moine. Car j'aime chanter, j'ai changé, mais dans chaque phrase j'ai mis la pied des rois. Je sors des enfers en costard, gros, je reste sans cesse en coma. Je vise que l'espace finirait hâte, posé en dép dans le sofa, non. Et je viserai vers la maille, je tire, c'est des rafales. Vif et stretch, libre mes peines, si je reste vrai, je nique tes états d'âme. Eux m'angoissent, rancune et je m'enfonce. Je vais me barrer, m'évader, seul dans le noir, dans une pièce sans son. D'état d'appréhension, je doute chaque soir. La larme à l'œil, face à ma feuille, j'ai pas la prétention de tout savoir.
Exploser la terre, m'exploser la tête. Un monde est vaste, mes projets m'appellent. Et chaque détail a son importance. Je veux tout découvrir, du froid de la banquise au cadran.
chacun sa merde. J'entends des voix seules dans ma tête, flanche m'amène sans arrêt. En alerte, je reste en apnée. C'est dur, je suis fort, j'ai pas un sou, la slam en brouille, là ça devient fou, ça